10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Bonjour Jean-Bernard Lévy.
Bonjour.
Il y a quelques jours, l'Agence de l'environnement a publié les cartes des effets concrets du réchauffement climatique dans les 30 prochaines années. Des zones rouges partout sur le territoire, incendies, régions englouties par la montée de 1 mètre du niveau de la mer, notamment dans le nord, et où est mentionné en plus et surtout la région de Gravelines, là où se trouve une centrale nucléaire. C'est la raison pour laquelle, entre autres, votre parole ce matin à la tête d'EDF est importante. Parce que les Français ont changé. Ce n'est plus le chômage qui est au cœur de leurs préoccupations, mais l'environnement, l'avenir de la planète, c'est-à-dire de tout un chacun. Comment sortir du tout pétrole? Comment réparer ou contrôler les phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents? Et comment pouvoir remplir la nouvelle mission donnée à l'électricité, c'est-à-dire limiter donc les émissions de gaz à effet de serre? Le choix historique, stratégique de la France du nucléaire est salué par l'Agence internationale de l'énergie. Les efforts pour décarboner sont salués également. Mais voilà, la semaine prochaine, une centrale va fermer. Alors on va vous poser évidemment la question, sera-t-on capable de rester indépendant face aux grands empires, en particulier les Chinois, plus conquérants que concurrents? Et surtout, le nucléaire est-il aussi sûr, aussi propre que vous le prétendez? C'est l'occasion d'expliquer, peut-être de rassurer, en tout cas d'informer. EDF vient de publier ses comptes, la bonne santé se confirme, même si l'endettement reste lourd, mais les investissements continuent. Désormais, le plan solaire, la transition énergétique vont s'accélérer. Pour quelle facture? On le sait, le prix de l'électricité, pour le particulier, reste un baromètre politique en France. Avec moi, pour vous interroger dans ce grand rendez-vous, ce matin, Cécile Cornudet des Échos, Johan Usaï de CNews. Et tout d'abord, on écoute, on regarde Philippe Martinez, c'était en décembre.
Les coupures de courant qui sont le fruit de grève, elles sont ciblées. Alors il peut y avoir, je ne suis pas un spécialiste, hein, il peut y avoir à quelques endroits des coupures involontaires, ceux qui sont ciblés, c'est les entreprises du CAC 40, c'est les grands magasins de distribution, ce sont quelques bâtiments publics, préfectures, etc. En aucun cas on ne cible les citoyens.
Bonjour Jean-Bernard Lévy.
Bonjour.
Demain débute à l'Assemblée la discussion sur la réforme des retraites. On sait que la mobilisation a été très forte à EDF. Comment vous sentez les choses aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore avoir des coupures de courant?
D'abord, je voudrais vous dire que les coupures de courant, il faut les condamner. Les Français ont droit à avoir de l'électricité en permanence et les salariés d'EDF se mobilisent pour cela.
Comment on peut les
empêcher?
Nous
portons plainte et lorsque des faits sont prouvés, nous sommes...
Il y a eu
80 plaintes ou 90 plaintes qui ont été portées là où il y a eu des coupures. Je voudrais souligner par rapport à l'intervention de M. Martinez que certaines de ces coupures ont touché des maisons de retraite. Certaines de ces coupures ont touché des cliniques, des hôpitaux. Et donc on a pris le risque d'atteindre à la sécurité physique, à la bonne santé de nos concitoyens.
Donc vous demandez cette fois-ci de ne pas faire de coupures?
Nous souhaitons... que le service public de l'électricité, ça soit en effet de livrer de l'électricité en permanence à tous nos clients.
Le dépôt de plainte de la part d'EDF, il est systématique?
Le dépôt de plainte d'EDF est systématique.
Et le climat est toujours aussi tendu, là?
Les mouvements sociaux que nous avons connus, en particulier depuis le 5 décembre, ont conduit à des coupures, à des baisses de charges, des baisses de production. Aujourd'hui, l'heure est à la concertation pour accompagner... des discussions qui ont lieu actuellement au Parlement sur la loi sur les retraites. Donc nous avons engagé des discussions, certaines sont dans l'entreprise, d'autres sont pilotées par Mme Borne, la ministre de tutelle, de manière à engager le passage du système actuel au système
combien
futur s'il est voté.
Combien vous a coûté la grève jusqu'à présent
La grève, pour l'instant, ne nous a pas empêché d'annoncer de très bons résultats avant-hier, que M. Darmon soulignait.
Oui, mais elle a coûté combien?
Nous avons pu l'absorber à l'intérieur de nos comptes.
Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? La SNCF a donné le chiffre.
Je crois qu'il est préférable que nous ne donnions pas de chiffres sur ce que coûtent les grèves. Nous les absorbons dans nos comptes et nos comptes sont bons. Vous avez vu le cours de bourse qui montait vendredi.
Reste
mais je voudrais dire sur les retraites. Nous sommes en train de suivre le débat qui se passe au Parlement et la loi évolue au fur et à mesure des discussions parlementaires. Nous avons un régime de retraite, un régime spécial, mais qui est deux fois spécial. Il est spécial parce que ce n'est pas le régime général et il est spécial aussi parce qu'il ne coûte rien aux Français.
Parce qu'il est bénéficiaire.
C'est un régime qui est équilibré. Il n'est ni excédentaire ni bénéficiaire. Nous, l'entreprise paye chaque année la différence entre le régime général et le régime spécial. Et donc le régime est équilibré. Et nous voulons, ce sont les discussions que nous avons engagées avec les représentants des salariés, avec l'État, nous voulons prolonger ce système. Alors c'est compliqué, il y a des périodes de transition. Comme chacun le sait, il ne se passera rien pour les salariés qui prennent leur retraite jusqu'en 2037. À partir de là, des périodes de transition qui sont longues,
assez
techniques. Et voilà. Et donc nous sommes aujourd'hui en pleine concertation avec les organisations syndicales sur ce sujet.
La mobilisation, elle est importante chez EDF et on a assisté, on l'a vu, à des coupures de courant, ce qui est quand même assez rare. D'habitude, on est plutôt sur des baisses de charges. Est-ce que ça signifie que, selon vous, il y a aussi une radicalisation de certains agents d'EDF ?
Est-ce que l'esprit gilet jaune est passé par là ?
Il est indiscutable que les salariés d'EDF ont vu des gilets jaunes autour d'eux. Il est indiscutable que certains salariés d'EDF peuvent se sentir proches de ce que revendiquent les gilets jaunes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'immense majorité des salariés d'EDF, elle est au travail. Les coupures, il y en a eu, il y en a moins ces dernières semaines.
Mais vous constatez quand même des actions plus violentes qu'avant.
Il y en a moins ces dernières semaines. Il n'y a pas d'actions particulièrement violentes, même s'il y a eu des abus, ça et là, qui nous ont conduits, je le répète, à porter plainte.
Alors vous dites qu'effectivement, il y a des négociations permanentes, il y a des concertations, vous allez suivre le texte. On a vu que, justement, à l'époque des gilets jaunes, certains responsables politiques proposaient régulièrement donc un gel des tarifs donc de l'électricité. C'était notamment une proposition avancée pendant la crise des gilets jaunes. Est-ce que vous y êtes favorable et est-ce qu'au fond, c'est pas non plus une mesure avec un effet boomerang pour les consommateurs ?
Et les tarifs de l'électricité évoluent selon une formule qui est fixée par la loi et qui est mise en application par le régulateur indépendant, la CRE, qui ensuite met en place des évolutions du tarif de l'électricité. Généralement, c'est en février et en août. Nous venons d'avoir des augmentations des tarifs de l'électricité. Je reviens à votre propos initial. De quoi s'agit-il ? De la hausse des matières premières qui conduit, avec un certain décalage, à la hausse des prix de l'électricité. Ça s'applique partout en Europe. Mais je voudrais rassurer les Français. S'ils traversent la frontière belge, italienne ou espagnole, ils payent leur électricité 30 à 40% plus cher qu'en France. S'ils traversent la frontière avec l'Allemagne, en Allemagne, on paye son électricité 70 à 80% plus cher qu'en France. C'est un atout pour le portefeuille des ménages, c'est un atout pour la compétitivité des entreprises, c'est un atout qui est largement dû, on le sait, à notre parc nucléaire et que nous voulons poursuivre.
Sur les retraites, le gouvernement a beaucoup ménagé et beaucoup discuté avec les entreprises de transport. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ce n'était pas tout à fait le cas pour vous, qu'il y avait deux poids, deux mesures ?
C'est difficile pour moi de ne pas vous répondre. C'est difficile pour moi de ne pas vous répondre que dans les transports, il y a eu des mouvements sociaux qui ont paralysé, en quelque sorte, ou largement entravé le fonctionnement de la région parisienne, que les trains ne fonctionnaient plus. Le service de l'électricité, lui, il a marché, il a fonctionné, même s'il y a eu quelques coupures, il a bien fonctionné, il continue à bien fonctionner. Je n'ai pas du tout l'impression d'être maltraité par le gouvernement. Nous avons eu des échanges très fréquents, notamment Elisabeth Borne et moi-même. Nous nous sommes parlé très régulièrement. Maintenant, ce que vous, les médias, vous avez vu, c'était quand même que la crise était bien davantage dans les transports, il faut le reconnaître.
Oui, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait un terreau aussi un peu plus sensibilisé de l'EDF. On y reviendra peut-être par ailleurs, parce qu'il y a aussi une crainte liée aux évolutions au sein de l'entreprise et les grandes réformes qui se mettent en place sur la manière dont l'entreprise va être conduite. Est-ce que vous avez le sentiment que il y a eu un effet de cliquet de ce point de vue-là et qu'il y avait c'est ce qui explique un peu le supplément de mobilisation auquel vous avez assisté, qui vous a un peu surpris apparemment quand même.
Il y a eu des taux de grévistes qui étaient élevés en septembre et à nouveau en décembre. Ils ont chuté depuis. Difficile de faire la part des choses entre ce qui relève des mouvements nationaux autour des retraites et ce qui relève de l'inquiétude sur l'évolution d'EDF que je suis en train de préparer à la demande du président de la République. Aujourd'hui, nous sommes en concertation permanente sur ces évolutions qui auront lieu ou qui n'auront pas lieu. Elles dépendent très largement de négociations que l'État français a engagées avec la Commission de Bruxelles. Et donc nous nous préparons
le cas échéant, à mettre en œuvre ces évolutions. Les salariés peuvent être inquiets, mais nous essayons de leur expliquer ce qui pourrait se passer. Et je leur dis très, très simplement, ne soyez pas inquiets. EDF restera EDF. Vous allez garder le statut, vous allez garder votre emploi, vous allez continuer à travailler à l'intérieur d'un groupe qui s'appelle et qui s'appellera EDF. Vous pourrez continuer à aller d'un département à l'autre, d'une filiale à l'autre, à l'intérieur du groupe EDF. En revanche, il va falloir envisager ces évolutions si nous voulons accompagner la réglementation, la régulation de notre secteur qui devrait changer.
Alors, d'autres évolutions, évidemment, qui viennent, qui prennent EDF en première ligne, ce sont les évolutions des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus fréquents, extrêmes. Encore une tempête se prépare après celle il y a quelques jours. Comment vous y préparez de manière plus régulière ? Est-ce qu'il y a effectivement maintenant un plan pour enterrer les lignes qui va se développer ? Comment aujourd'hui EDF est-il prêt à cette évolution climatique extrême ?
Je vais revenir un petit peu en arrière, si vous le permettez. Il y a une vingtaine d'années, nous avons eu une série de tempêtes extrêmement fortes qui ont mis à bas les réseaux. Des millions de Français se sont retrouvés privés de courant, quelquefois jusqu'à 3 semaines. Suite à ces événements qui remontent au tout début, vers 1999-2000, au tout début du siècle, nous nous sommes réorganisés de façon à être mieux préparés que nous ne l'étions à l'époque. Devant ces phénomènes climatiques, il faut voir que les phénomènes climatiques se multiplient. Nous nous sommes mieux préparés en achetant davantage de matériel, en mettant en place des forces d'intervention, ça s'appelle la FIR dans EDF.
Oui, ce sont quoi ? C'est les forces spéciales d'EDF
qui interviennent.
Des forces
d'intervention qui sont prêtes. Elles ont des plans qui sont prêts à l'avance. Si la tempête est en Alsace, les gens du sud-ouest vont venir. Si la tempête est dans le sud-ouest, les gens du nord et de l'est vont venir et ils sont prêts à venir.
Ils interviennent dans quelles circonstances ?
Ils sont tout organisés. Donc tout est préparé. Et puis également, c'est la troisième chose, donc des plans d'enfouissement. Nous dépensons des sommes importantes. Chaque année, nous enfouissons de l'ordre de 100 000 km de lignes. Alors, on pourrait enfouir encore davantage. On n'a pas tout enfoui encore, mais progressivement, les lignes les plus fragiles, nous avons un programme
d'enfouissement. Quelle proportion de lignes sont enfouies aujourd'hui ?
Nous avons, alors ça dépend, les lignes à très haute tension, les lignes à haute tension, etc. Mais je dirais à peu près la moitié, en moyenne, la moitié.
On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Bernard Lévy pour continuer à évoquer le nouveau monde d'EDF.
Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Johan Usaï, Michaël Darmon.
Et notre invité Jean-Bernard Lévy, président directeur général d'EDF. Une question de Johan Usaï.
Oui, puisque la transition écologique, c'est notre nouvelle dimension, c'est le nouveau monde d'EDF, donc c'est votre nouveau monde. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'elle voulait diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040, donc dans 20 ans. La première question, comment est-ce que vous comptez y parvenir ? Et puis surtout, est-ce que vous pensez que c'est réaliste de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre ?
Alors, Nous sommes très singuliers parmi les grands pays d'Europe et même parmi les grands pays du monde, c'est que grâce à notre parc nucléaire et à notre parc hydraulique, nous n'émettons presque pas de gaz à effet de serre pour produire de l'électricité en France. Donc ce que nous avons à faire, c'est pas tellement corriger le mode de production actuel, comme beaucoup de nos voisins doivent le faire, c'est plutôt inciter l'ensemble des utilisateurs de l'énergie à aller vers l'électricité décarbonée. Parce que chacun sait que la solution, c'est l'électricité à condition qu'elle soit verte, à condition qu'elle soit décarbonée. Dans le monde, la production d'électricité dans les 20 ans qui viennent va être multipliée par 4 sous un double phénomène d'électrification générale et aussi de substitution de l'électricité à des énergies fossiles. Exemple, la voiture électrique.
Alors comment vous allez faire pour pouvoir permettre justement aux Français qui veulent s'équiper de plus en plus en voiture électrique, cette mobilité, comment vous allez pouvoir l'encourager ? Êtes-vous capable de l'encourager ?
Alors nous avons des plans, des planifications que nous traitons avec les collectivités territoriales pour mettre des bornes de recharge et les alimenter partout où il y a une demande. Et puis nous avons promis que chaque Français qui demande d'avoir une borne de recharge chez lui, parce qu'il achète une voiture électrique, eh bien nous sommes en mesure de la lui fournir. Nous fournissons les bornes de recharge à tous les Français qui les demandent.
À quoi correspond l'acquisition de cette société que vous avez faite récemment, qui justement permettrait de pouvoir augmenter la capacité et plus rapidement d'être
c'est cela.
Sur le
nous
territoire
avons, c'est exactement cela. Nous avons une première compétence que nous souhaitons étendre de façon à aller plus vite dans ce phénomène de borne de recharge. En Grande-Bretagne, 2035, en France, 2040, plus de voitures thermiques chez les concessionnaires. Il n'y aura que des véhicules électriques à vendre. Il faut qu'il y ait des bornes de recharge partout. C'est le rôle d'Enedis pour les alimenter, c'est le rôle d'EDF pour fournir des bornes de recharge aux Français.
On parle beaucoup de cet Airbus des batteries. Ici même, il y a quelques semaines, le Thierry Breton, le nouveau commissaire français, plaidait pour que cette organisation européenne puisse voir le jour. Est-ce que vous êtes rassuré, confiant sur cette possibilité, ou ce sera encore une bonne volonté sans effet?
Nous souhaitons apporter notre pierre à cette volonté de l'Europe de ne pas laisser les batteries uniquement dans le monde asiatique, comme elles le sont aujourd'hui. Nous travaillons sur les batteries avec nos équipes de recherche et développement, celles qui sont en Seine-et-Marne. Et nous participons donc à l'Airbus des batteries, même si nous n'avons pas nous-mêmes vocation à produire des batteries. Nous ne sommes pas un fabricant de batteries. Mais insérer des batteries dans un réseau électrique, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans la technique. Permettre à certaines de ces batteries de restituer du courant au réseau électrique quand c'est nécessaire pour lisser les pointes. C'est un magnifique projet sur lequel nous avons commencé à faire des investissements et des expérimentations. Donc les véhicules électriques, ça va être un atout pour EDF, pour le réseau électrique et aussi pour, j'espère, l'industrie européenne.
Alors comment aidez-vous la vie des gens encore à changer? Cécile Cornudet.
Oui, vous vous fixez de faire 30% dans le solaire d'ici à 10 ans. Comment vous faites?
Eh bien, nous avons lancé un plan solaire. J'ai lancé ce plan il y a maintenant 2 ans, de façon à ce qu'en effet, nous ayons 30% du parc solaire français dans 10 ou 15 ans. Et pour ça, il faut avoir des terrains et puis il faut avoir des équipes qui vont installer des panneaux solaires chez les gens. Alors nous avons depuis lancé ces deux activités de façon à récupérer du foncier pour pouvoir y installer des panneaux solaires. Nous avons aujourd'hui 7 fois plus de terrains qui attendent des autorisations pour pouvoir y mettre des panneaux solaires qu'il y a 2 ans. Et puis nous avons, avec les équipes de cette filiale que j'ai plaisir à citer, qui s'appelle EDF ENR, avec cette filiale, nous avons, je crois, la première place sur le marché français, 20% du marché, nous visons 30, et je crois que nous les obtiendrons un jour pour aller mettre des panneaux solaires sur les toits des maisons, sur les toits des centres commerciaux, des usines, des hangars, etc.
Mais quelles sont les innovations de ce point de vue-là? Dans quelle mesure vous allez pouvoir faire encore avancer la technologie? Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis quelques années, mais ça n'a pas non plus produit de résultats probants. Alors, qu'est-ce que vous allez changer de manière à ce que, justement, ça puisse être vraiment massif?
D'abord, il faut faciliter la vie des gens. Les gens qui savent pas tellement comment faire, il faut leur faciliter la vie. Deuxièmement, le prix des cellules solaires a beaucoup baissé depuis ces dix dernières années. Et nous pensons qu'il va continuer à baisser. Et puis, certains de nos clients voudront aussi avoir une batterie de façon à stocker l'électricité qui est produite la journée dont ils pourraient avoir besoin le soir. Et là aussi, nous leur apportons des solutions. Donc, un mélange d'innovation et d'une organisation un peu industrielle pour mieux couvrir notre marché.
Alors, vous dites, en fait, ce qu'on comprend, c'est que le solaire devient plus stratégique que le nucléaire. On va l'aborder tout à l'heure, mais on a l'impression qu'il y a un changement d'accent là que vous mettez.
Il y a 5 ans, quand je suis arrivé, j'ai dit le nucléaire, c'est formidable et on va continuer à avoir besoin de beaucoup de nucléaire. Mais il faut aussi que EDF soit un grand des renouvelables. Et nous sommes aujourd'hui un grand des renouvelables, que ça soit sur les éoliennes en mer, que ça soit sur le solaire et que ça soit bien sûr sur l'hydroélectricité qui pendant encore longtemps va être la première énergie renouvelable. Nous couvrons la totalité des technologies des énergies renouvelables et nous restons très fiers de pouvoir, grâce à l'électricité nucléaire, produire en permanence une électricité qui est meilleur marché que chez nos voisins.
Alors, toujours en ce qui concerne la vie des Français, de Yann Uzaï.
Oui, parlons des logements, puisqu'on a l'impression effectivement que l'électricité est en train de détrôner le gaz ou le fioul dans la construction des logements neufs. Alors, est-ce que vous avez déjà des chiffres sur ce nouveau mouvement? Parce qu'on a l'impression effectivement qu'il y a un retour en grâce de l'électricité. Est-ce que vous pouvez le confirmer en donnant quelques chiffres?
Après de nombreuses résistances, apparemment.
Alors, il y a eu un basculement après des années pendant lesquelles, dans les logements collectifs, beaucoup étaient équipés à l'électricité. Des mesures ont été prises qui ont conduit à ce que la plupart des logements récents ont été équipés au gaz. Or, le gaz, c'est écrit dans tous les manifestes politiques des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie. Le gaz est une énergie de transition. C'est une énergie qui va décliner parce qu'elle produit, elle utilise des ressources rares et elle produit beaucoup de gaz à effet de serre. Donc le gouvernement prépare, mais c'est pour le 1er janvier 2021, un retour à la situation dans laquelle beaucoup des immeubles collectifs neufs et beaucoup des travaux de rénovation vont se faire au bénéfice de l'électricité, parce que l'électricité n'émet pas, ou que très peu, de gaz à effet de serre.
Comment est-ce que vous avez convaincu le gouvernement? Parce qu'on sait qu'il y a encore peu de temps, les pouvoirs publics sont très réticents à cette idée-là. Zahir,
les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux d'émission de gaz à effet de serre...
Vous n'avez pas eu besoin de vous battre.
Aussi, il faut toujours donner son point de vue. Et quelquefois, il y a des points de vue différents. Parce que ceux qui font la promotion du gaz, ils regrettent aujourd'hui de voir ce qui est en train de se passer. Donc, ils essayent de se battre. Ah, donnez-nous encore quelques années, on verra plus tard, etc. Non, il y a une urgence climatique. Et le gouvernement, le 1er janvier 2021, a le projet de faire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, dans d'autres pays, c'est exactement la même chose qui est en train de se faire. Dire non, si on veut vraiment combattre le réchauffement climatique, il faut que progressivement, les gens se chauffent à l'électricité décarbonée.
Alors, effectivement, à chaque fois, on entend un peu la belle histoire, les belles avancées technologiques. Si on parle un petit peu maintenant de l'hydrogène, cette nouvelle manière de pouvoir couvrir l'ensemble des besoins de la planète. Il y a même d'ailleurs une filiale qui a été créée. Mais une fois de plus, qui est là pour pouvoir développer de façon plus puissante les Chinois, les concurrents. Qu'est-ce qui manque pour que justement il y ait une capacité à pouvoir avoir cette indépendance énergétique que l'on entend partout sur les tribunes politiques?
Monsieur Darmon, je ne vais pas faire de triomphalisme, mais nous n'avons pas de retard en Europe et en France en matière d'hydrogène. Nous n'avons pas de retard. Nous avons toutes les technologies qui conviennent. EDF a d'ailleurs pris une participation importante dans une start-up qui est dans la Drôme, qui fabrique des hydrolyseurs, qui vient de gagner un très très gros contrat pour un client industriel aux Pays-Bas et qui est en train d'en gagner d'autres. Nous n'avons pas de retard dans l'hydrogène. L'hydrogène peut être une des solutions pour stocker de l'énergie, notamment de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne, quand elle est très abondante, parce qu'il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil. On peut la stocker sous forme d'hydrogène et ensuite la restituer pour des applications comme les bateaux, comme les camions, comme les usines.
Donc en fait, avant de laisser la parole à Cécile Cornudet sur le nucléaire, juste une question, une remarque. Vous êtes d'un optimisme incroyable. Vous allez repousser la catastrophe climatique annoncée de partout?
EDF ne fera pas tout seul, mais EDF a bien l'intention d'y contribuer fortement.
Cécile Cornudet.
Oui, venons-en au nucléaire. Il y a un événement très important cette semaine. Vous allez fermer le premier réacteur de la centrale de Fessenheim. Le deuxième sera en juin. On sait que vous n'étiez pas forcément très favorable. Comment vous vivez ce moment avec une émotion particulière?
C'est une décision qui a été prise par notre
l'État.
République.
Oui, l'État.
C'est une décision démocratique. Et bien évidemment, EDF applique les décisions qui sont prises par l'État, en l'occurrence le gouvernement, le Parlement, la fermeture de Fessenheim. Nous la gérons du mieux possible. Nous avons un plan de reclassement des salariés, un plan de soutien à ceux qui ne sont pas salariés mais qui travaillent tous les jours à l'intérieur de la centrale, parce qu'ils ne sont pas chez EDF mais chez des prestataires. Nous participons à la société de reconversion qui est organisée autour du préfet du Haut-Rhin, et nous essayons de faire en sorte que ce qui est pour nous une situation un peu douloureuse, de fermer une usine qui fonctionne bien, qui même a eu parmi ses meilleurs résultats en 2019 sur les 40 ans de sa durée de vie, cette situation douloureuse, nous essayons de la gérer au mieux en essayant d'avoir, je dirais, beaucoup de compassion et d'émotion pour ceux qui vont, du jour au lendemain, voir leur outil de travail s'arrêter.
L'autorité de sûreté nucléaire, il y a quelques semaines, début février, disait que tout n'était peut-être pas très bien préparé, notamment dans la planification du projet de démantèlement. Est-ce que vous avez rectifié les choses?
Oh oui, je peux vous donner une explication un peu technique, Madame Cornudet.
Nous avons, pas trop.
Pas trop technique, ça va durer 10 secondes. Nous avons deux choses à faire. Nous avons à préparer le plan de démantèlement et le dossier de démantèlement. Le plan de démantèlement que nous avons délivré à l'autorité de sûreté ne contient pas toutes les informations que nous avons l'intention de mettre dans le dossier de démantèlement. Mais l'autorité de sûreté nous dit non. On a besoin de certaines informations dans le plan. Et le plan est incomplet. N'attendez pas le dossier pour nous donner ces informations.
C'est juste formel alors cette remarque.
C'est pas formel parce que ces informations sont importantes pour que l'autorité fasse son travail.
D'accord.
Donc évidemment, nous allons appliquer cette demande de l'autorité de sûreté.
Et on continue à en parler dans quelques instants avec Jean-Bernard Lévy. À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet,
Johan Usaï,
Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Jean-Bernard Lévy qui est donc dirigeant d'EDF. Est-ce que le nucléaire est vraiment l'énergie propre, Johan Usaï?
Oui, la fermeture de la centrale de Fessenheim, on vient d'en parler. Est-ce que cette fermeture n'est pas contradictoire avec votre ambition climatique? Dans le sens où comment est-ce que vous allez pouvoir vous passer d'autant d'énergie décarbonée sans de l'autre côté eh bien alourdir vos émissions de gaz à effet de serre? En fait, comment est-ce que vous allez compenser le manque d'énergie produit à Fessenheim? Est-ce que vous pouvez assurer que cette compensation, ce sera de l'énergie propre?
C'est une très bonne question et j'aurais du mal à vous expliquer que fermer des centrales nucléaires contribue à lutter contre le réchauffement climatique. Il est évident que ce n'est pas le cas. Nous appliquons des décisions qui ont été prises par l'État. C'est la politique énergétique, c'est l'apanage de l'État. Nous appliquons cette décision.
On a du mal à comprendre.
Fermer Fessenheim.
Cécile Cornudet.
C'est pour donner un signal aux écolos que cette décision a été prise.
Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. La politique énergétique, elle est discutée dans le cadre de la vie démocratique du pays, notamment au sein du Parlement ou au moment des grandes élections nationales.
Est-ce que ça veut dire que la centrale de Fessenheim, ça va nécessairement engendrer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur EDF?
Il est difficile de nier que fermer une centrale à la proximité de la frontière allemande, dont une grande partie du courant électrique décarboné, était exporté vers l'Allemagne. Difficile d'expliquer que ça ne va pas donner plus d'espace aux centrales, au charbon qui fonctionnent en Allemagne.
Ça repousse la fermeture de certaines centrales à charbon.
Difficile d'expliquer le contraire.
Ça repousse la fermeture des dernières centrales à charbon.
Ça ne repousse pas les fermetures en France, puisqu'elles ont été actées par le gouvernement à l'horizon de 2022. Mais l'équilibre qu'il y a entre le nucléaire français et la production d'électricité en Allemagne à partir de charbon, du charbon...
Ça signifie que les Allemands vont devoir faire tourner leur centrale à charbon pour compenser la fermeture de Fessenheim.
Difficile de dire le contraire.
Donc on voit bien que vous mettez le doigt sur une contradiction majeure quand même entre les intentions, les actes, les décisions. Le public peut avoir du mal à comprendre quand même.
En tout cas, il y a un débat en Allemagne sur la manière dont l'Allemagne, qui est le pays le plus puissant économiquement en Europe... applique ou non les directives européennes d'aller le plus vite possible vers la décarbonation. Mes collègues me disaient il y a quelques jours qu'une centrale au charbon en Allemagne vient de recevoir l'autorisation de commencer à fonctionner.
Donc il n'y a pas d'Europe de la transition écologique, de la transition énergétique. À quoi servent toutes ces...
Sur les pays où nous sommes présents, France, Grande-Bretagne, mais aussi Italie et Belgique, nous avons accompagné la transition énergétique selon des principes de politique énergétique fixés par les gouvernements. Mais je crois qu'il est clair, vous parliez tout à l'heure des déclarations du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, il est clair que les différents pays ne font pas tous la même chose en Europe.
Alors justement, pour ça, il faut être aussi au rendez-vous. En France, il y a aussi ce fameux échec de Flamanville, on a pratiquement un pléonasme maintenant. Qu'est-ce que cela raconte, ce fiasco? C'est une forme de déclin de l'industrie française. Quelles leçons vous tirez et comment remettre à plat l'ensemble du dispositif?
C'est un problème qui est difficile et clairement EDF n'est pas heureux de la manière dont le chantier de Flamanville a été mené. De nombreux rapports publics ont été établis, notamment celui de Monsieur Fols. Je fais venir, j'ai annoncé il y a quelques jours, qu'un grand directeur de projet qui a mené à bien plusieurs programmes dans le groupe Peugeot, PSA, va nous rejoindre dans quelques semaines de façon à essayer de comprendre comment faire mieux la prochaine fois. Alors nous avons d'abord à terminer Flamanville. Comment terminer Flamanville avec des problèmes de soudure à réparer? Nous espérons terminer cela fin 2022 pour que le réacteur soit en service en 2023. Et puis nous avons à préparer la construction de nouvelles centrales nucléaires si le gouvernement en décide ainsi. Et pour préparer cette décision du gouvernement, il faut que nous donnions confiance. Et pour donner confiance, il y a deux aspects. Est-ce que nous sommes plus efficaces sur le plan industriel? Et puis est-ce que nous pouvons assurer la continuité de notre performance? Et de ce point de vue-là, je milite pour que nous n'attendions pas que tout soit prêt pour prendre des décisions
qui conforteront la filière. Ont déjà les réponses. Vous êtes inquiet, vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est compliqué.
Si vous voulez, c'est pas en construisant une centrale nucléaire tous les 15 ans qu'on sera efficace, et c'est pas non plus comme ça qu'on aura un parc permettant de remplacer le parc actuel. Et donc il faut se donner un programme, nous proposons un programme de 6 centrales nucléaires et nous souhaitons que la décision, les décisions nationales, les impacts locaux soient étudiés le plus rapidement possible pour que la filière nucléaire française puisse avoir devant elle un programme de travail dans la durée. Est-ce que le stop and go, c'est pas une bonne façon de faire.
Est-ce que la France est déjà en train de perdre son savoir-faire en termes de nucléaire? On a l'impression que c'est un peu ce que vous dites, en tout cas qu'il y a vraiment un risque imminent.
Je ne cache pas qu'il y a un risque.
Pour rendre confiance, il faut peut-être travailler sur les déchets qui restent quand même indestructibles aujourd'hui. Alors on voit que les plus dangereux, on les enfouit comme à Bure. Qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres?
Alors tous les autres déchets sont aujourd'hui traités, séparés, traités, entreposés. Et nous souhaitons que dans les prochaines évolutions que le gouvernement prépare à travers un sigle un peu barbare, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, nous puissions remettre dans le circuit les déchets une fois qu'on les aura dépollués de la radioactivité.
Et ça, vous avez avancé.
Vous savez qu'une très grande partie
les...
de la radioactivité, une très grande partie de la radioactivité est très inférieure à la radioactivité naturelle. Se promener dans une zone un peu granitique, on prend beaucoup plus de radioactivité que de travailler dans une centrale nucléaire. Néanmoins, il y a des déchets fortement radioactifs. Ceux-là seront enfouis dans un site qui est en train d'être construit, qui sera bientôt construit. Pour l'instant, il a été construit, c'est un laboratoire qui est à Bure, dans l'est de la France.
Donc en fait, ce que vous expliquez, c'est que pour pouvoir tenter de rassurer ceux qui sont vraiment contre ce procédé et qui considèrent que c'est vraiment très dangereux, qu'il est possible, il va être possible d'enlever la radioactivité des déchets, c'est ça?
Voilà, nous retraitons les déchets. La France dispose sur le territoire de La Hague, dans la Manche, dans le Cotentin, dispose d'un centre qui est probablement le meilleur du monde en matière de retraitement. En tout cas, les Japonais, les Chinois ne sont pas arrivés au même degré de technologie pour retraiter les déchets, de façon à ce que les déchets les plus agressifs soient séparés, soient vitrifiés et soient ensuite enfouis. C'est un programme qui est scientifique, extrêmement compliqué, qui est surveillé par de nombreuses autorités. Ce n'est pas EDF qui en est en charge, c'est une agence nationale qui répond directement à l'État, au ministère de Madame Borne, qui s'appelle l'ANDRA. À côté de cela, les métaux, les matériels qui ont juste vu un petit peu de radioactivité, nous les entreposons, nous les stockons, nous les brûlons et nous souhaitons assez rapidement pouvoir les réinjecter dans le circuit économique. C'est ce qui est fait partout ailleurs en Europe. Et parce que, je le répète, cette faible activité est inférieure à la radioactivité naturelle. Donc c'est quelque chose qui
devrait pouvoir être possible. Est-ce que vous ne risquez pas de souffrir ou d'être impacté, comme on dit, par les évolutions politiques, l'influence des Verts, la recherche du vote écologiste, comme on l'évoquait il y a quelques minutes, qui pourrait tout simplement freiner, voire amener le gouvernement à changer totalement de voie? Vous aurez la confiance du gouvernement là-dessus?
En tout cas, je l'espère. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que EDF appliquera les lois. On en parlait au moment de Fessenheim. On peut en parler en ce qui concerne la manière de gérer les déchets. Les déchets radioactifs ont fait l'objet de plusieurs lois. La plus récente est de 2006, mais il y en avait eu deux précédemment. Et donc, nous appliquons les lois en matière de gestion de tout ce qui touche au nucléaire en France. Nous sommes un opérateur important, mais c'est le gouvernement et le Parlement qui décident.
Pour continuer à tout comprendre sur le nucléaire, Yoann Uzaï.
Alors, parlons maintenant du prix de cette énergie nucléaire. L'énergie nucléaire qui est vendue aujourd'hui aux entreprises à un tarif encadré. Vous souhaitez désormais que le tarif soit librement fixé par EDF. Ça signifie clairement que vous souhaitez augmenter ces tarifs. Pourquoi ?
Alors, je voudrais dire comment les prix sont fixés. Les particuliers et les petits professionnels dont les consommations ressemblent à celles d'un particulier, nous proposons un prix qui est le prix réglementé, ce qu'on appelle le tarif bleu. Il existe depuis toujours. Nous avons encore une grande part de marché sur le tarif bleu, mais nous avons des concurrents nombreux qui proposent d'autres offres. D'ailleurs, nous-mêmes, nous proposons d'autres offres que le tarif bleu, qui sont des offres qu'on appelle offres de marché, qui contestent le tarif bleu, et les Français choisissent. Les Français sont très attachés au tarif bleu parce que c'est pour eux un synonyme de sécurité, de qualité de facture. Ils savent que quand ils appellent EDF, eh bien la personne qui leur répond au bout du fil est en France, etc. etc.
Là, mais vous parlez des particuliers. Voilà. Mais ça, pour les entreprises, vous souhaitez vous-même fixer les tarifs.
Pour les entreprises, ça fait déjà longtemps que nous sommes sur des tarifs libres. Les grosses entreprises, ça fait 15 ans. Les entreprises de taille moyenne, ça fait 5 ans. Et là, il y a un marché libre. EDF a une part de marché qui est de l'ordre de la moitié, environ 50%. Et nous avons de nombreux concurrents. Il n'y a pas eu d'évolution récente là-dessus.
Concernant la sécurité, Là aussi, c'est toujours un questionnement, c'est toujours une crainte. Et avec les évolutions à venir, encore plus, j'évoquais tout à l'heure en introduction donc, cette carte publiée par donc, l'Agence de l'environnement. Clairement, la centrale de Gravelines pourrait être inondée. La mer va monter de 1 mètre. Qu'est-ce que vous faites pour éviter cela ?
Eh bien, je peux vous dire, sans vous donner tous les chiffres, que si la mer monte de 1 mètre, il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge avant qu'il se passe quoi que ce soit à Gravelines. Ne soyez pas inquiets. Nos centrales nucléaires sont construites suffisamment haut par rapport au niveau de la mer pour que nous ne soyons pas inquiets d'une
montée des eaux. Gravelines, il faudrait que ce soit combien de mètres pour que ce soit inquiétant ?
Nettement plus.
Nettement plus. Très bien. Cécile Cornudet, sur les risques qui continuent en ce qui concerne le nucléaire.
Les risques peut-être liés à la 5G, à la sécurité des centrales. Comment vous vous protégez de ces risques-là ?
Votre question est très importante. Je voudrais, sans rentrer dans trop de détails, vous dire simplement quel est notre principe de fonctionnement. Depuis toujours, les systèmes informatiques et les systèmes de télécom des centrales nucléaires sont complètement isolés du monde extérieur. Bien sûr, nous avons besoin d'ordinateurs et de réseaux à l'intérieur des centrales nucléaires. Ils sont complètement isolés du monde extérieur, donc nous les protégeons de cette façon-là. Et nous avons évidemment des équipes de cybersécurité qui vérifient comment ça
on
se passe à l'intérieur.
De la...
On ne peut pas prendre parce qu'on ne peut pas rentrer. On ne peut pas sortir non plus.
Enfin, il y a bien des militants de Greenpeace qui rentrent, physiquement en tout cas.
On parle de cybersécurité.
Oui, là, on cybersécurité.
On peut aussi parler de ceux qui cherchent à rentrer dans une centrale nucléaire, mais sur la partie informatique, télécom, le risque cyber, on voit de temps en temps des grands groupes français ou étrangers dont les systèmes informatiques sont attaqués. Nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque pour nos systèmes de gestion. Et nous espérons que nous ne serons pas attaqués. Mais pour le système de fonctionnement opérationnel des centrales nucléaires, c'est complètement isolé, complètement cantonné.
Mais c'est-à-dire, est-ce que vous installez un nouveau réseau, un réseau privé, un réseau parallèle ?
Nous avons déjà des réseaux privés. On peut les appeler des réseaux privés pour nos centrales nucléaires.
Alors, ça, c'est pour les centrales nucléaires. En ce qui concerne les centrales électriques, vous commenciez à l'évoquer. Avec la 5G, il y a un risque de prise de contrôle par l'extérieur ?
Il n'y a pas de risque particulier du fait que ça soit la 5G, la 4G, la 3G, la 2G.
Je vais mettre en avant, par exemple, des personnes comme Thierry Breton ou d'autres, ils disent, attention, avec la 5G, il y a ce risque-là. Comment vous...
Nous ne sommes pas un opérateur de télécom, avec le risque, si vous faites allusion à un grand industriel chinois, nous ne sommes pas un opérateur de télécom. Nous utilisons des réseaux de télécom, nous les protégeons contre l'intrusion dans nos réseaux et nous avons avec l'agence spécialisée de l'État de nombreux tests pour vérifier que on ne peut pas facilement, et j'espère que ça va bien rester comme ça, prendre la main sur nos réseaux. Mais je répète, les centrales nucléaires, les réseaux sont isolés et pour le reste nous avons des protections sur nos réseaux, de telle sorte que nous ne nous sentons pas particulièrement à risque. Nous restons très vigilants et nous dépensons beaucoup d'argent chaque année pour améliorer le niveau de protection qu'il y a sur nos
réseaux. Alors c'est quand même la faille humaine qui risque d'être la plus importante, puisqu'il y a eu quand même plusieurs exemples d'infiltration de militants de Greenpeace qui ont pu aller assez loin à l'intérieur.
Et qui ont été condamnés.
Comment
ont été condamnés par la justice. En effet, ils ont franchi la première clôture.
Comment est-ce possible ?
Ils ont franchi la première clôture et ils ont été condamnés.
Complicité interne ?
Ils ont franchi la première clôture et ils ont été condamnés pour cela.
Comment faire pour éviter que ça recommence ?
On essaye de faire en sorte que la première clôture soit moins facile à franchir.
Donc vous insistez beaucoup sur la première clôture, ça veut dire que pour vous ce n'est pas un problème.
Il faut toujours être vigilant, monsieur.
Il n'y a pas de risque.
Nous sommes en permanence très vigilants. Nous sommes toujours très vigilants. Mais je répète, ils ont franchi en effet la première clôture.
Ça veut dire qu'à aucun moment il y a de menace pour ces centrales.
Ils ont d'ailleurs appelé les services de sécurité de la centrale qui sont confiés à la gendarmerie. Ce sont des gendarmes spécialisés qui, dans chaque centrale nucléaire, assurent cette sécurité. Une fois qu'ils ont franchi la première clôture, ce qui évidemment amène à des alarmes et à l'arrivée de nos gendarmes en quelques minutes, ils les ont appelés pour dire qui ils étaient. En effet, franchi la première clôture.
Voilà, sur ce laconisme, on se retrouve pour la dernière partie.
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Johan Usaï, Michaël Darmon.
Et Jean-Bernard Lévy, donc, qui est. dirige EDF et qui continue à nous expliquer pourquoi le nucléaire peut-il être effectivement l'énergie propre. Mais les polémiques également continuent en ce qui concerne le fameux compteur Linky, hein, qui est donc dirigé par Enedis, la filiale d'EDF. La CNIL recadre sur les données personnelles qu'il faut changer dans leur collecte à travers les compteurs. Quelles sont les réponses que vous apportez à cela ?
D'abord, une réponse de principe. Nous appliquerons immédiatement les préconisations, les recommandations
oui, ça,
de la CNIL.
On
immédiatement.
Imagine. Mais
deuxièmement, de quoi s'agit-il ? En fait, nous demandons aux Français, voulez-vous, et c'est ceux qui répondent positivement, voulez-vous que nous puissions utiliser vos données de consommation d'électricité pour vous proposer, par des algorithmes, des économies. Et il faut cocher une case. Ce que la CNIL nous dit, c'est non, ça va pas. Vous pouvez pas demander aux gens de cocher une case parce qu'ils ont trois droits. Ils ont le droit de vous donner la consommation quotidienne, la consommation horaire, la consommation par demi-heure. Ils ont trois droits. Nous ne vous autorisons pas à ce que les Français cochent une case lorsqu'ils ont trois droits. S'il vous plaît, mettez trois cases. C'est ce que nous allons faire.
Mais vous comprenez qu'on touche à un point sensible, cette peur des Français d'avoir à transmettre des informations privées.
Et ceux qui ne le souhaitent pas ne cochent pas ni la case unique jusqu'à présent, ni aucune des trois cases.
C'est le choix que vous opposez à ceux... Est-ce que vous pensez que c'est du complotisme ? Comment vous expliquez ce phénomène social ?
Je crois que les Français sont inquiets de ce qu'ils lisent sur la manière dont leurs données personnelles sont utilisées sans qu'ils s'en rendent vraiment compte par ce qu'on appelle les GAFA. Il y a vraiment un débat autour de ça.
Et vous êtes victime de ça, d'une certaine façon.
La donnée personnelle est devenue en fait une matière première qui sert aux GAFA à gagner beaucoup, beaucoup d'argent dans tous les pays du monde. Et certains pays essayent de les combattre. Mais enfin, ça ne marche pas parce que les gens, ils ont envie d'aller sur ces réseaux sociaux et tout ça. Et nous sommes un petit peu, éclaboussés par cette mauvaise image que la donnée personnelle... Les gens les donnent sans s'en apercevoir, alors que nous avons pris la précaution et nous sommes favorables, c'est pas contre notre gré, nous sommes favorables à ce que seuls ceux qui le souhaitent, et ils sont nombreux, on puisse leur proposer des modes de consommation plus économiques.
Mais pour prolonger la question comme de Cécile Cornudet, regardez, le politologue Jérôme Fourquet, dans son livre L'archipel français, a fait une étude intéressante sur le profil de ceux qui contestent le compteur Linky, qui sont proches de celui comme profil des gilets jaunes. Est-ce que cela, ça aide à avoir justement une appréhension, une approche de ce problème avec cette sensibilité et cette opposition à laquelle on a assisté dans beaucoup d'endroits sur l'arrivée des compteurs Linky?
Je crois que c'est difficile. J'ai lu le livre de Jérôme Fourquet qui est tout à fait remarquable et en effet, il y a une frange de la population qui conteste beaucoup. Je voudrais quand même souligner que nous avons aujourd'hui plus de 23 millions de compteurs Linky installés. Le pic du programme a été atteint. D'ici 2 ans, le programme sera grosso modo terminé sur toute la France
avec
métropolitaine.
Avec pas mal d'incidents d'ailleurs, de coupures, de gens qui se plaignent du fonctionnement de
Alors,
leur électricité.
Il y a un phénomène qui a peut-être été pas très bien expliqué. C'est que quand vous avez une puissance, par exemple, de 6 kilowatts et que vous en utilisez 7 ou 8, le compteur Linky vous oblige à prendre un abonnement qui correspond à la puissance que vous avez. Donc, nous avons eu effectivement à intervenir chez quelques-uns de nos compatriotes qui utilisaient une puissance supérieure à celle de leur abonnement. Avec l'ancien compteur, eh bien, ça ne se voyait pas. Avec le nouveau compteur, il faut augmenter la puissance de l'abonnement. Et dans certains cas, il faut revenir chez la personne pour le faire. Mais je reviens au compteur Linky. D'abord, je voudrais dire que les tribunaux ont appliqué la loi. La loi impose, d'ailleurs, ça vient d'une loi européenne, à ce qu'on mette en place un compteur numérique. Ça a apporté énormément d'avantages aux Français. Ça fait baisser les factures. Ça les rend beaucoup plus conscients de ce qu'ils payent pour l'électricité. Ça leur permet, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir derrière, en utilisant Linky, des applications, je dirais, de numérisation dans la maison, de s'informer mieux, de mieux utiliser les différents objets qui sont connectés dans la maison. Il y a quand même pas mal d'objets aujourd'hui connectés dans la maison. Donc Linky, il y a évidemment beaucoup de facteurs favorables. Bon, il y a des gens qui contestent quand il y a quelque chose de nouveau. S'ils contestent, il faut qu'on leur explique et qu'on leur explique encore et qu'on soit inlassablement dans l'explication. Mais aujourd'hui, le programme se déroule, il est presque terminé.
La peur de la nouveauté, c'est effectivement le sujet à haute tension qui continue. Johan Usaï.
Oui, puisqu'on voit bien avec Linky les questions qui se posent autour du respect de la vie privée dans la collecte des données. Un autre exemple, évidemment, qu'on a connu ces dernières heures, c'est l'affaire qui est liée à Benjamin Griveaux et qui renvoie là aussi à la préservation de la vie privée, toujours dans le cadre du numérique. Alors, pour vous, le numérique, ça correspondrait plutôt à un risque? Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une chance?
Eh bien, c'est évidemment d'abord et avant tout une chance. C'est une chance dans le mieux vivre, c'est une chance dans la socialisation, c'est une chance dans le fait que qu'on soit sur le territoire, progressivement, on a accès à l'ensemble des informations qui sinon ne seraient disponibles que dans les villes, par exemple. Mais en même temps, c'est un risque parce qu'il peut y avoir des abus. On l'a vu avec l'affaire dont vous avez parlé. Et puis, il y a d'autres abus. On le voit aussi avec le risque de ne plus avoir la maîtrise de ces données personnelles. Je voudrais simplement vous dire que EDF est très attentif à ces sujets-là, que nous travaillons de façon très étroite avec la CNIL. D'ailleurs, j'aurais pu vous rappeler que la CNIL nous avait en fait donné une bonne note sur l'enquête qu'elle a faite chez nous. On a singularisé cette histoire de nombre de cases à cocher, mais en réalité, nous avons une bonne note et nous serons... Vous savez, nous avons un capital confiance formidable avec les Français. Ce capital confiance, nous n'allons pas le mettre en péril au titre des données personnelles. Les Français peuvent avoir confiance que s'ils cochent la case en disant « Oui, nous voulons bien donner des données personnelles à EDF », ces données ne seront pas revendues. Elles resteront à l'intérieur d'EDF uniquement pour que nous fassions notre métier, c'est d'aider les Français à consommer mieux, d'aider les Français à aller aussi vers le décarboné.
Et on sent bien que ce que vous nous dites, effectivement, montre bien à quel point votre activité et ce que l'on vit est au cœur de ces mutations de son époque. Dans notre époque, Cécile Cornudet.
Oui, il y a vous, EDF, mais il y a vous aussi, chef d'entreprise. On voit bien dans cette histoire, Griveaux, que la frontière entre la vie publique et la vie privée, elle va finalement questionner toutes les personnes publiques. Est-ce que vous avez peur?
Eh bien, écoutez, j'essaye de protéger ma vie privée et j'espère que ça va continuer.
Mais ça dépasse largement le phénomène d'un candidat à la mairie de Paris. Vous avez l'impression qu'on a sauté une digue avec cette histoire et qu'il y a un danger d'abolition de cette frontière vie publique, vie privée qui touche tout le monde.
Je crois que les relations entre la vie publique et la vie privée remontent à des dizaines et des dizaines d'années. Pour avoir vécu dans notre pays, il y a eu d'autres moments où les médias ou les réseaux sociaux plus récemment ont atteint à la vie privée des personnes. Je crois qu'il faut faire attention à ce que notre société respecte d'abord et avant tout le facteur humain. Mais les hommes et les femmes que nous sommes, nous devons les respecter. Et j'espère que les tribunaux auront les moyens de condamner réellement ceux qui ne respectent pas la vie privée.
Est-ce que vous avez le sentiment que les personnalités publiques aujourd'hui sont plus menacées qu'il y a encore quelques années seulement? Personnalité publique, donc
il y a une dictature de la transparence qui s'installe avec le numérique.
Je crois qu'il y a une culture de la transparence en général qui est une exigence démocratique plus forte qu'elle ne l'était. Avec le numérique, tout s'accélère, tout est accessible. Ça va de pair avec une demande de la population de plus de transparence.
Donc ça va dans le bon sens.
De la classe dirigeante.
Pour vous, ça va dans le bon sens?
Je pense que la transparence va dans le bon sens.
À côté de cela, on assiste, vous l'avez dit tout à l'heure, tout mouvement, on va dire technologique, toute évolution technique, et vous en savez quelque chose, s'accompagne toujours de crise passion. Est-ce que c'est comme ça que vous pouvez aussi expliquer pourquoi on voit monter, cette fois-ci au-delà de notre pays, on voit aussi monter partout les craintes populistes, les crispations. Est-ce que c'est aussi fonction de ces mutations très rapides que vous accompagnez, que vous nous expliquez d'ailleurs de votre point de vue? Est-ce que le progrès fait peur?
Absolument, c'est le mot que j'allais utiliser. Je crois qu'aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde occidental, la notion de progrès scientifique est contestée. Que la vérité est contestée, le phénomène des fake news. Nous sommes une entreprise qui est basée sur la science, hein, qui est basée sur les chiffres.
Oui, vous-même, c'est votre formation.
Sur des faits concrets.
Scientifique,
oui, indépendamment de même de la formation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingénieurs chez EDF, mais nous sommes basés sur les faits, sur la réalité des choses. Et nous avons de plus en plus des contestations de ce qu'est la vérité. Et on le voit d'ailleurs peut-être encore davantage aux États-Unis qu'en Europe. C'est un phénomène qui me paraît un petit peu menaçant pour notre avenir, si tout ce qui est dit est vrai. Non, tout ce qui est dit n'est pas vrai.
Il y a une réflexion, du coup, chez vous, chez EDF, pour
oui,
voir comment gérer l'irrationnel.
Je vais juste vous donner un exemple qui est un peu symbolique. Nous avons mis en place un système de validation de nos communiqués de presse.
Et bien pourquoi ? Parce qu'il y a des risques de piratage de nos communiqués de presse. Et un grand groupe français, un jour, eh bien, un hacker a piraté son système de communiqué de presse. Et donc, tout le monde a cru que ce qui était dans le faux communiqué de presse était vrai. Juste pour vous donner cet exemple, nous l'avions précédé, ce mouvement, en mettant en place un système de validation express de nos communiqués de presse. Mais voyez, là où va se chercher le problème que nous rencontrons, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est dit ? Et ce qui est dit n'est pas nécessairement vrai. C'est pas parce que c'est dit que c'est vrai.
Vous avez été reconduit pour un nouveau mandat avec la mission, l'équation d'assurer une continuité et de faire également un changement. Ça inquiète aussi pas mal à l'intérieur de votre maison, puisqu'il y a un projet de transformation complète d'EDF. Certains pensent que ça peut être un démantèlement, une privatisation des parties de l'activité. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez expliquer dans quelle mesure cette entreprise est en train de muter et pourquoi cela inquiète-t-il ?
Je vais vous dire d'abord, il ne s'agit pas d'une transformation complète et notamment les salariés d'EDF qui m'entendent doivent savoir qu'il s'agit simplement d'une réorganisation comme nous en avons déjà vécu. Vous parliez tout à l'heure d'Enedis, la filiale indépendante de distribution. Elle était totalement intégrée à l'intérieur d'EDF il y a seulement une quinzaine d'années. Elle a été séparée, mise dans une filiale détenue à 100% par EDF et les salariés d'Enedis continuent à travailler à l'intérieur d'un système qui est le système EDF. Comme je le disais tout à l'heure, ce que nous faisons, c'est de nous réorganiser, mais je voudrais dire à tout le monde, EDF restera EDF. Nous avons besoin à travers, vous parliez des sujets d'endettement qui sont les nôtres, à travers la dette d'EDF qui est déjà élevée, de résoudre un problème, c'est que nous avons beaucoup à investir pour aller vers la transition énergétique, beaucoup à investir, que nous avons déjà un niveau de dette qui est élevé. Nous devons le faire à travers un changement de régulation que le gouvernement a pris en main. Madame Borne est déjà allée plusieurs fois à Bruxelles pour en discuter avec la commissaire Madame Vestager. Ce changement de régulation va s'accompagner d'une séparation plus formelle entre certaines des activités d'EDF et d'autres activités d'EDF. Tout cela
avec
restera
des
activités d'EDF. Il n'y aura pas de privatisation. Nous resterons un groupe public, telle est l'intention claire du gouvernement. Nous resterons un groupe intégré. Les salariés ne verront pas de changement.
Et pourquoi faut-il séparer les activités entre l'activité transition énergétique, l'activité nucléaire ? Renationaliser le nucléaire ?
Voilà, notre production centralisée, il nous semble qu'elle doit être mise de façon équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à la disposition de tous ceux qui ont besoin de la production d'électricité. Ce sont les gens qui commercialisent les services d'EDF et ce sont aussi nos concurrents. De manière provisoire, un système a été mis en place en 2010, ça fait 10 ans. Ce système provisoire dure et dure bien longtemps, puisqu'il est pour nous automatiquement générateur d'endettement. Il nous empêche de faire les investissements dont nous, EDF, mais dont la France a besoin en matière de transition énergétique. Fin 2018, le président Macron a, dans un discours, donné les grandes lignes de la réforme qu'il souhaite engager, m'a demandé d'y travailler, a engagé évidemment aussi l'administration et les ministres concernés à y travailler. Et nous espérons aboutir dans quelques mois, en accord avec la Commission de Bruxelles, à un changement dans l'organisation interne d'EDF. Il y a déjà eu dans les années 2000 à 2005 de grands changements dans l'organisation interne d'EDF, notamment avec la création d'Enedis. Et il se peut que nous ayons à l'horizon de 2022 un nouveau changement. Mais ce n'est pas un bouleversement, ce n'est pas une transformation profonde. C'est juste une organisation différente de ce qu'est EDF.
Voilà, tout change pour que tout reste pareil. EDF sera toujours EDF. C'était le grand rendez-vous de Jean-Bernard Lévy. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast. À bientôt.
Merci.
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.